Vous écoutez, on lit pour vous.
La crise climatique entraîne une hausse des violences contre les femmes. Un texte de Magdalene Boutros, paru le 25 juin 2025 dans Le Devoir. Les changements climatiques ont parfois des effets inattendus. Chaque hausse de 1 degré Celsius de la température mondiale se traduit en une augmentation de 4,7% des violences conjugales, évalue un récent rapport de l'initiative Spotlight des Nations Unies. Une corrélation surprenante à première vue, qui s'explique par une intensification des tensions sociales et économiques découlant des bouleversements climatiques. Les violences fondées sur le genre et les changements climatiques sont ainsi inextricablement liés, établit la note de synthèse Colliding Crises, How the Climate Crisis Fuels Gender-Based Violence, qui compile les résultats d'une série d'études sur le sujet. Le réchauffement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes comme les sécheresses, les inondations, les tempêtes, aggrave les facteurs de risque sous-jacents, indique au Devoir Erin Kenny, coordinatrice mondiale de l'initiative Spotlight, qui se consacre à l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Les bouleversements climatiques amplifient l'instabilité économique, créent de l'insécurité alimentaire, entraînent des déplacements de population, endommage des infrastructures et envenime des conflits. Ils ne provoquent pas la violence, mais ils aggravent ce qui est déjà présent, les discriminations fondées sur le genre, rendant la violence beaucoup plus probable. Effet clair. Pendant les vagues de chaleur, par exemple, la prévalence des féminicides conjugaux est jusqu'à 28% plus élevé. Un phénomène comparable à celui vécu pendant la pandémie de COVID-19 qui s'explique par l'isolement accru et le stress vécu pendant ces périodes de chaleur extrême, particulièrement par ceux dépendant du travail agricole. Quant aux déplacements de population découlant d'inondations ou de sécheresses et créant une grande précarité, ils entraînent une hausse des mariages de jeunes filles, une recrudescence des agressions sexuelles et une montée de la traite d'êtres humains. Avec un réchauffement climatique de 2 degrés Celsius, les modèles prévoient que 40 millions de femmes et de filles supplémentaires seraient victimes de violences conjugales chaque année, indique Mme Kenny depuis New York. Dans un scénario de réchauffement de 3,5 degrés Celsius, ce nombre pourrait plus que doubler. Des données qui sont probablement sous-évaluées puisqu'elles se fondent sur de faibles taux de dénonciation des violences sexuelles et conjugales, note la coordinatrice mondiale de Spotlight. Nous savons que pour certains groupes, notamment les femmes autochtones et les femmes en situation de handicap, les risques sont nettement plus graves, ajoute-t-elle. Les premières, parce qu'elles sont, à titre de protectrices de la Terre, à l'avant-scène des mouvements de justice climatique. Et les secondes, en raison des restrictions à leur mobilité. Aux premières loges. De manière générale, les femmes et les filles sont plus touchées par la crise climatique. Elle représente 80% des personnes déplacées en raison des bouleversements découlant de la hausse des températures. Ce sont elles aussi qui doivent travailler plus fort dans les champs lorsque les récoltes sont mauvaises. Pour combler des pénuries d'eau, elles doivent souvent se déplacer plus loin, ce qui augmente le risque qu'elles subissent de la violence en chemin. Et lorsque la nourriture vient à manquer, les jeunes filles passent généralement au second rang derrière les garçons pour l'obtention de celle qui est disponible. La crise climatique n'est donc pas neutre en regard du genre. Pour Erin Kenney, il est donc impératif d'agir de manière concertée. Nous devons tous travailler ensemble, ceux qui travaillent pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles et les acteurs du climat. Mais nous ne nous parlons pas assez, déplore-t-elle. Ces crises interconnectées exigent une réponse unifiée. Approche commune. Selon l'initiative Spotlight, un maigre 0,04% de l'aide au développement liée au climat est centrée sur l'égalité des genres. Or, toute initiative relative à la crise climatique devrait inclure un volet de prévention et de prise en charge de la violence basée sur le genre, soutient Mme Kenney. Plusieurs projets de l'initiative Spotlight vont dans ce sens. Pendant des épisodes de tempêtes tropicales ou Honduras, des trousses de dignité, contenant des produits menstruels et des articles d'hygiène ainsi que des denrées alimentaires de base, ont été distribuées à des femmes hébergées dans des centres d'urgence. Au Timor oriental, des espaces adaptés aux enfants, pour les divertir et les prendre en charge, ont été aménagés dans des centres de crise pour soulager les femmes pendant les inondations de 2021. Pendant la pandémie de COVID-19 ou d'autres situations de crise, des cliniques mobiles pour assurer la continuité des services de santé sexuelle et reproductive ont été déployées dans plusieurs pays. Des programmes qui peuvent servir d'exemple de façon de lutter contre la violence faite aux femmes tout en renforçant la résilience climatique, fait valoir Erin Kenney. Il doit y avoir un engagement politique plus fort pour répondre à ces crises qui s'entrecroisent, souligne-t-elle. C'était « La crise climatique entraîne une hausse des violences contre les femmes », un texte de Magdalene Boutros, paru le 25 juin 2025 dans Le Devoir.
Pour saluer VLB, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 11 juin 2025 dans Le Devoir. J'avais annoncé à Victor Lévy-Beaulieu que je partais le voir, aux Trois Pistoles, pour discuter de divers projets. « Parfait », avait-il dit. « Tu resteras à coucher. On prendra le temps de jaser. Mais je ne serai pas là quand tu vas arriver. La clé est sous le paillasson, comme dans toutes les maisons. Tu as juste à rentrer et t'installer. « Où seras-tu, Lévy ?» lui avais-je demandé. « Aux quilles. » C'était soir de finale de sa ligue de quilles, si je me souviens bien. Plutôt que de l'attendre chez lui à zioter les rayonnages infinis de sa bibliothèque tout en me faisant lécher le nez par ses chiens et chats, j'avais décidé d'aller le regarder jouer. Sa vieille décapotable américaine, véritable paquebot roulant, trônait à la porte du bowling. Ma foi, VLB se défendait pas mal aux quilles. Reste que c'est avec sa plume qu'il faisait le plus d'abats et de dégâts. Ce diable d'homme était perpétuellement comme un chien sans médaille, lancé au beau milieu d'un jeu de quilles. Il aimait provoquer comme pas un, parfois plus que de raison, dans l'intention qu'advienne un pays qui ne s'était jamais allongé en lui. Même après sa mort, il vivrait encore de cette bonne idée d'un pays, disait-il. Je n'aurais pas voulu l'avoir comme ennemi. Malin comme un singe, rusé comme un renard, fort comme un cheval, ce gargantua aux accents anarchistes savait ensorceler par ses mots mieux que quiconque, jusqu'à vous avaler tout rond. Écrire pour lui répondait à une urgence sans cesse renouvelée, une nécessité incontournable qui constituait l'horizon de ses journées. Cet Houdini des mots portait en lui une œuvre dont il tentait de se délivrer. Je l'ai vu aux Trois Pistoles, dans sa grande maison de bois, parler jusqu'au petit matin. Puis, dès l'aurore, il était à sa table en bois de pommier, à batailler avec lui-même pour se soulager du poids des pages qui s'accumulaient en lui. Il les déversait invariablement sur du long papier de notaire. Après quelques heures de ce labeur, il s'arrêtait pour avaler un café, papoter, grignoter. Puis, il retournait à son affaire. Ensuite seulement débutait ce qu'il appelait son « ordinaire ». Les animaux, les livres de ses auteurs, ses confitures, ses proches, et presque toujours quelques projets brinque-ballants dans lesquels il trouvait à se fourrer le nez, comme une sorte de Balzac du Bas-Saint-Laurent. Cet ouvrier des mots avait appris les bases de son métier autant du côté de la littérature universelle que dans ses usines à imprimer du papier que sont les journaux. Il sera attaché au petit journal, à Dimension, à Perspective, au Nouveau Samedi, à l'illettré, au Couac, au Devoir aussi. J'en oublie. Qui peut compter les textes qu'il a publiés? À 30 ans seulement, VLB avait déjà reçu des prix majeurs et publié bien des livres. Dans son œuvre apparaît un monde québécois qui refuse de se trouver dans un cul-de-sac de l'imaginaire à force de prendre les détours de parisianisme ridicule, de ravaler ses tripes, de se couper de ses sources. « Le problème au Québec, disait VLB, c'est qu'on a confondu instruction et culture. » On a créé en série des gens instruits, mais incultes. Comme éditeur, VLB travaille avec Jacques Hébert aux Éditions du Jour. Il fricote avec Jean-Claude Germain, Michel Garneau, Gilbert Larocque. Il se lie d'amitié avec un aîné vénéré, Jacques Ferrand. Il y a pire comme fréquentation. VLB va fonder plusieurs maisons d'édition, en avançant, comme dans tout le reste, tel un cheval de trait, non sans frapper des murs. À l'occasion, il touchera le fond du baril. Reste que cet homme a, sa vie durant, autant de projets en tête que de paroles en bouche. Pour lui, le réel s'apprivoise par le langage et par les rapports de réciprocité qui le constituent. Il aime le côté rugueux des parlures d'ici, tout en se nourrissant à la sève de la littérature universelle. Pour parler de sa vie et du monde d'ici, cela ne l'empêche pas de transiter volontiers par Melville, Tolstoï, Faulkner, Joyce, Twain, Hugo et bien d'autres. À dire vrai, tout l'intéresse. Il est friand de la littérature d'en bas comme de celle d'en haut. Connaissez-vous son manuel de la petite littérature du Québec, un livre tout à fait singulier? Avec qui, sinon lui, pouvait-on discuter presque à l'infini du dictionnaire des cas de conscience de l'abbé de Pontas dans une sorte d'exorcisme de la parole qui remontait jusqu'à Mathusalem? Pour qui s'y frotte pour la première fois, ces phrases apparaissent touffues, drues, souvent baroques, pleine d'éclat de la lumière de cette race de monde que sont les écrivains. VLB joue de la langue québécoise. Il en use comme d'une arme politique. Elle lui sert à manifester l'existence d'une société. Abel Beauchemin et Job J. Jobin sortent la tête de leur trou pour proclamer leur droit d'exister. Cet téléroman, taillé dans le même bois, font de lui une célébrité. Ce printemps, la dernière fois que je lui ai parlé, il soulignait comment le fait d'avoir pris à bras-le-corps la langue québécoise pour l'élever avait constitué une révolution dont on mesurait mal désormais l'importance fondamentale en la confinant dans le rapetissement du quotidien. Avait-on perdu le sens que devait prendre pour une société la célébration de sa littérature? Il se le demandait. Pierre Foglia l'admirait au moins autant que moi. Il répétait souvent, ces dernières années, que VLB était chez nous le plus grand écrivain vivant. il n'avait pas tort. Lisez M. Melville. Passez à « Pour saluer Victor Hugo ». Considérez son James Joyce, l'Irlande, le Québec, les mots. Ce livre, je l'ai vu le nourrir, un hiver dans un petit appartement à Montréal. Promenez-vous à travers les marées d'émotions que charrient les personnages de sa grande tribu. Considérez sa lecture de l'Amérique qui jaillit des belles pages qu'il consacre à Jack Kerouac. Vraiment, a-t-on besoin de faire un dessin devant tant d'évidence? Comprenez-vous? C'est un géant, oui, qui vient de tomber. Non, il n'a pas chez nous d'équivalent. À sa mort, il avait encore un livre en chemin. Le titre? Tremble-terre. Celui-là ne sera pas publié. Reste que dans tout ce qu'il est déjà, il y a suffisamment à boire et à manger pour une éternité, quitte à mettre de côté certains titres. Comment envisager la mort d'un être pareil? Tout cela n'a absolument pas d'importance, écrivait-il. Je ne voudrais pas m'en faire un problème. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il était inutile que je m'en fasse un problème. Tu es poussière et tu retourneras en poussière, disent les livres saints. De toutes les Écritures, c'est la seule parole qu'il importe de ne pas oublier. Poussière, mon ami, tout est poussière. Et pourquoi s'en ferait-on pour un peu de poussière? L'hiver, on l'emploie parfois pour empêcher les gens de tomber sur le cul quand la chaussée est glissante. Je dis qu'on en fait un bon usage. Reste qu'en ce demi-pays, quand la poussière de cette mort retombera, on verra, malgré le brouillard de nos jours, que les mots de VLB continuent d'avoir du poids au milieu d'un monde tenté de s'emballer devant la moindre légèreté. On pourra alors se demander par quelle anémie de la pensée une société ne consacre pas d'emblée des funérailles officielles à un tel monument. C'était, pour saluer VLB, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 11 juin 2025 dans Le Devoir.
La spiritualité a sa place dans les soins de santé. Voici pourquoi. Un texte de Marc Pépin, Audrey Simard, Chantal Verdon et Hélène Champagne, paru le 23 juillet 2025 dans La Conversation. La profession d'accompagnant spirituel a vécu de profondes et radicales transformations, en particulier dans les années 1960. Cette métamorphose, de pair avec les transformations sociales du Québec, a exigé une redéfinition et une explicitation du rôle de ceux et celles qui, depuis 2011, se nomment les intervenants en soins spirituels, ISS. Au Québec, la formation professionnelle passe par des études universitaires de deuxième cycle avec des programmes spécialisés ancrés dans les réalités du terrain. Une certification de niveau national est également recommandée. Au cours de leur formation, les futurs ISS assimilent la tâche délicate, originale, mais essentielle, d'accompagner spirituellement les personnes malades ou accidentées. Les ISS sont sollicités par les équipes de soins, par les usagers ou par leurs familles. Face à une maladie grave ou aux conséquences d'un accident, certains des éléments sur lesquels se construit notre existence, valeurs, convictions, buts, perception du monde, de soi ou de ce qui nous dépasse, se trouvent autant sollicités que bousculés, bouleversés, parfois dévastés. Les ISS accompagnent justement ces dimensions essentielles de chaque personne. Certaines personnes malades, mais aussi celles qui les soignent, peuvent se trouver confrontées à des situations ou des questionnements qui leur occasionnent de la souffrance morale, voire de la détresse spirituelle. L'incompréhension face à l'absurdité de la souffrance, face à la mort d'un enfant, ou encore face à l'injustice ressentie par rapport à une maladie, peut mettre à l'épreuve l'équilibre spirituel chez ces personnes. À l'inverse, la spiritualité de chacune et chacun peut offrir des ressources uniques pour traverser les moments difficiles. Voilà pourquoi un accompagnement spirituel compétent devient crucial dans de tels moments. Vous avez dit « spiritualité ». Dans un Québec devenu laïque, les profondes mutations du rapport à la religion ont souvent contribué à une perception parfois biaisée de la spiritualité, la confondant avec le religieux ou occultant sa dimension existentielle et relationnelle. Or, la spiritualité est une dimension dynamique de l'existence humaine, distincte du religieux. La spiritualité se manifeste par une quête de sens, de but et de transcendance. Elle s'exprime et se vit de manière subjective à travers les relations à soi, aux autres, à la nature et au sacré. La spiritualité se reconnaît dans son dynamisme relationnel et existentiel, influençant la manière d'habiter le monde et de donner sens à l'expérience humaine. Certaines personnes trouvent dans le religieux un espace communautaire qui nourrit leur quête de sens. Et c'est donc dans le religieux que s'exprime et se déploie pour eux la vie spirituelle. D'autres trouveront des ressources spirituelles dans des sagesses séculaires, des approches philosophiques, des pratiques corporelles ou rituelles, etc. Les ISS sont habilités à reconnaître le profil spirituel des personnes accompagnées et faciliter l'actualisation des ressources qui contribuent au sens, au but et à la transcendance de sa vie. Comment les ISS accompagnent-ils les personnes dans leur spiritualité? L'originalité du travail des ISS réside dans son approche profondément humaine et personnalisée. Ils interviennent non pas sur, mais avec la personne et selon la personne. Plutôt que de travailler à partir d'un cadre de référence prédéfini, les ISS se rendent attentifs et présents à l'autre qui vit des pertes, des doutes, un mal-être, en s'adaptant aux ressources intérieures de chacun. Il favorise ainsi un cheminement personnel où l'individu peut retrouver lui-même son chemin spirituel. Aux personnes malades ou endeuillées, à leurs proches et au personnel soignant, l'ISS offre une écoute singulière, un espace où exprimer ce qui a le plus de valeur ou ce qui est souffrant. Plus qu'un soutien, il est aussi un auxiliaire entre la vie et la mort, un guide dans la quête de sens face à l'incompréhensible et à la souffrance. Par leur posture d'intermédiaire, les ISS, avec les autres intervenants psychosociaux, jouent un rôle central de médiateur entre la personne malade ou endeuillée, ses proches et l'équipe soignante. Témoins des tensions familiales, ils facilitent le dialogue et contribuent à la résolution des conflits. Ils veillent à préserver un espace d'écoute et de respect. Leur médiation s'étend également au personnel soignant, dont les avis, les convictions et le regard sur la situation peuvent parfois diverger de l'expérience vécue du patient ou de ses proches. En informant et en conciliant ces différentes perspectives, les ISS assurent une présence apaisante, favorisant une communication harmonieuse dans des contextes souvent marqués par la vulnérabilité et l'incertitude. Les ISS accompagnent les personnes endeuillées au-delà de leur douleur, les aidant à puiser en elles la force spirituelle de traverser l'épreuve. Ils facilitent l'émergence des ressources spirituelles et renforcent l'identité de la personne accompagnée en s'adaptant à ce qui fait sens pour elle et pour son entourage. Cette approche repose sur une grande flexibilité dans la posture de l'intervenant qui tient compte de la diversité des expériences, des réalités et des perspectives sociales, culturelles et spirituelles. Les ISS accompagnent sans imposer et laissent ainsi place à la réinvention possible des croyances et de la spiritualité. De la posture à l'acte, comment opèrent ces spécialistes de la spiritualité? Se démarquant de l'exercice coutumier des professionnels de santé, l'intervention en soins spirituels repose avant tout sur l'être plutôt que sur le faire. Le processus relationnel propre à cette intervention évolue au fil des interactions, nourri par la posture propre des ISS inscrite dans la compassion, l'attention et la bienveillance. L'accompagnement prend diverses formes, notamment par des rituels et des activités adaptées aux besoins spirituels et symboliques de la personne et de son entourage. Ces pratiques, qu'elles soient laïques, humanistes ou religieuses, permettent d'apporter du réconfort, de structurer l'expérience et d'offrir un espace de communion chaleureuse. Les organisations peuvent-elles se passer de spiritualité? Les recherches sur l'impact de la spiritualité dans les pratiques de soins à partir d'un modèle holistique qui intègre le spirituel au biopsychosocial sont abondantes et concluantes. Elles reconnaissent la spiritualité comme composante fondamentale du mieux-être de la personne, tant chez les personnes malades qu'auprès des membres de leur famille. L'intégration compétente du spirituel dans les pratiques de soins s'avère d'autant plus cruciale dans un système de santé qui vit une crise marquée par de profondes et multiples pressions systémiques, se manifestant notamment par la détresse morale des professionnels de santé, leur épuisement et les répercussions psychologiques liées au deuil vécu. Des études montrent également que la dimension spirituelle contribue aussi au mieux-être des professionnels confrontés à des contextes exigeants. La reconnaissance tardive des intervenants en soins spirituels, ISS, en milieu de santé, ne cesse d'étonner, alors que les professionnels de la santé prennent progressivement conscience de l'importance du spirituel dans les pratiques de soins. L'un des freins à cette pleine intégration de professionnels du spirituel semble résider dans la difficulté des milieux de santé à intégrer une approche fondée sur la présence et le sens, pourtant essentielle pour accompagner les usagers au-delà des seules logiques médicales. Les ISS guident sans diriger, soutiennent sans prescrire et accompagnent la personne endeuillée dans une quête de sens qui dépasse la seule perte. Leur rôle, empreint d'une profonde humanité, s'inscrit dans une dynamique relationnelle où chaque échange contribue à tisser un chemin de résilience et de transformation. Parce qu'elle soutient la traversée de l'expérience de la maladie, du deuil, de la perte et de la détresse, la spiritualité devrait imposer sa place dans les institutions de santé. Face à la souffrance, elle éclaire, ouvre un espace d'expression de la quête de sens et de l'actualisation de soi. C'était « La spiritualité a sa place dans les soins de santé. Voici pourquoi ». Un texte de Marc Pépin, Audrey Simard, Chantal Verdon et Hélène Champagne, paru le 23 juillet 2025 dans « La conversation ».